nos voix, nos rêves à l'unisson, nos sourires, nos larmes, nos frissons. Ici le temps ne nous est pas compté, en cet instant d'éternité.
Je veux sentir nos âmes sur la même longueur d'onde, positives et rebelles, nomades et vagabonds. Ce soir la lune est pleine, les étoiles sont fécondes. Faisons attendre le ciel quelques milliards de secondes. Je veux sentir nos âmes sur la même longueur d'onde, positives et rebelles, nomades et vagabonds. Ce soir la lune est pleine, les étoiles sont fécondes. Faisons attendre le ciel quelques milliards de secondes.
Passage. À tous les coups, c'est pas le même chien qui gueule à mes choses. Et puis voyons si je me souviens, voyons dans ce coin de Beauce. Y avait dans le temps un bon grand chemin. Cheminot, cheminot, chemine. À cette heure n'est pas plus grand que ma main. Par où donc je cheminerai demain? En Beauce, vous les connaissez pas, pour que rien ne se perde, mangerait on sait quoi ces gars-là, ils mangeraient de la merde. Le chemin c'était à leur jugé la bonne terre perdue. À chaque labour ils l'ont mangé d'un sillon de charrue. Y avait dans le temps un beau grand chemin. Cheminot, cheminot, chemine. À cette heure n'est pas plus grand que ma main. Par où donc que cheminerai demain? Sont gros aussi leurs arpents goulus d'un peu de glèpe toute neuve. Mais ton chemin en est devenu mince comme une couleur. Et moi qu'avec lui sous les cieux pour poser guibole, chemin à tout le monde, nom de Dieu, c'est mon bien qu'on me vole. Y avait dans le temps un beau grand chemin. Cheminot, cheminot, chemine. À cette heure n'est pas plus grand que ma main. Par où donc que cheminerai demain? On se met du blé sur le terrain qui retira ma route. Mais si je leur demande un bout de pain, ils m'envoient me faire foutre. Et c'est peut-être bien pour ça que je vois, à mesure que le blé monte, les épis baissonnaient devant moi comme s'ils avaient honte. Y avait dans le temps un beau grand chemin. Cheminot, cheminot, chemine. À cette heure n'est pas plus grand que ma main. Par où donc que cheminerai demain? Au mon beau petit chemin gris et blanc, sur le dos qui je passe, je veux plus qu'on me serre comme ça les flancs. Car moi je veux de l'espace, où ce que mes allumettes elles sont, dans le fond de ma panetière, et je ferai bien reculer vos moissons, ah les mangeterres. Il y avait dans le temps un beau grand chemin, cheminot, cheminot, chemineux. La sœur n'est pas plus grande que ma main, je pourrais bien l'élargir demain.
Radio Libertaire 89,4 MHz, c'est l'heure de l'émission Les Manges de Terre, donc on est bien en direct, une émission d'écologie sociale qui va aborder un certain nombre d'articles puisés dans la presse, et la plupart du temps même, je crois que c'est la quasi-totalité, une presse sans publicité, comme cette radio que vous écoutez. Avec pour commencer deux articles, une approche certes un peu économique, mais c'est quand même ça m'a semblé particulièrement intéressant de soulever ces points. Le premier s'appuie sur La Relève et la Peste, donc un site en ligne qui nous dit que en 14 ans, la fortune des 500 familles les plus riches de France est passée de 12 à 42% du PIB. Et cette richesse, c'est avant tout un très grand pouvoir. C'est un pouvoir économique d'abord, le pouvoir de racheter des concurrents, d'influencer les marchés. C'est aussi un grand pouvoir politique, un pouvoir d'influencer les politiques publiques. L'économiste Gabriel Zucman, qui défend la taxation à hauteur de 2% du patrimoine des ultra-riches, a en effet été auditionné par l'Assemblée nationale, et le site en ligne La Relève et la Peste a retranscrit une partie de son intervention. Tout ça, ce sont des citations de l'intervention de Gabriel Zucman. Cela m'a frappé, les sommes en jeu sont considérables. Entre 2010 et 2024, la fortune des 500 familles les plus riches est passée de 12 à 42% du PIB. Ce qui signifie que si ces 500 plus grandes fortunes dépensaient tout leur argent, elles pourraient acheter l'équivalent de presque la moitié de tout ce qui est produit sur une année en France, au niveau des biens et des services. C'est une tendance à la hausse qui est spectaculaire. Pour les classes moyennes, le patrimoine, c'est quoi ? C'est une sécurité pour ses vieux jours, c'est de l'épargne, c'est de la détention de son logement, c'est un petit matelas de sécurité qu'on peut utiliser si on a des pépins dans l'existence. C'est une bonne chose. On doit encourager l'accumulation de patrimoine pour les classes moyennes, et on aimerait que les classes populaires aient beaucoup plus accès à la propriété. Bon, là, je vais quand même faire un petit commentaire là-dessus. Hein. On a aussi, évidemment, une approche. Alors, la propriété privée, c'est une chose. La propriété de son logement, c'est une chose. Mais on a, bien sûr, une collectivisation dont la sécurité sociale est un embryon. Alors, il est complètement dévoyé par, justement, le fait que ce ne sont pas les salariés et les principaux intéressés qui oriente les budgets et qui oriente les ressources. Ça a pu être le cas avant les accords Jeanneney qui ont pris fin en 67, si ma mémoire est bonne. Voilà, là il y a une promotion de la petite propriété, le fait de se créer un matelas. Faut pas que ça dépasse l'usage personnel. Hein. Il est bien sûr pas question, en tout cas sur cette antenne, de défendre un modèle de rente, c'est-à-dire de vivre eh bien du travail des autres, hein, tout simplement. Donc je voulais faire ce petit bémol et je reprends la lecture de l'article. Donc pour les classes moyennes, le patrimoine, bien c'est limité. Hein, je commente toujours ce que nous dit Gabriel Zucman dans son intervention. Mais pour les très grandes fortunes, qui possèdent des centaines de millions et des milliards de patrimoine, ce ne sont pas des fortunes qui sont accumulées pour leurs vieux jours. Et cette richesse, c'est avant tout un très grand pouvoir. C'est un pouvoir économique d'abord, le pouvoir de racheter des concurrents, d'influencer les marchés. C'est aussi un grand pouvoir politique, un pouvoir d'influencer les politiques publiques. Dans certains pays comme les États-Unis, c'est un pouvoir d'acheter les élections. Et c'est surtout le pouvoir d'influencer l'idéologie dominante en achetant des médias. Une tendance qui a été particulièrement prononcée en France, où 85% de la presse privée est détenue par des milliardaires. L'entièreté de la presse économique du pays est détenue par quelques milliardaires. Cela vous donne une idée de l'influence que les personnes en question peuvent exercer en dépensant leur argent. Cela vous donne aussi une idée du potentiel de recettes fiscales à la clé si on taxait ces patrimoines. Si on taxe à 2% le patrimoine de ces 500 plus grandes fortunes, ça pourrait rapporter de l'ordre de 0,8 points de PIB, environ 20 milliards d'euros. Même si vous ne vous préoccupez pas de ces questions d'égalité devant l'impôt, ni des questions d'inégalité de fortune, si vous ne vous préoccupez que des recettes fiscales et que de l'équilibre budgétaire, même de ce strict point de vue, vous ne pouvez plus vraiment ignorer le problème. Voilà ce que disait donc Gabriel Zucman devant l'Assemblée nationale. La relève et la presse te rappelle que s'informer avec des médias indépendants et libres est une garantie nécessaire à une société démocratique. Et voilà, la nécessité de soutenir cette presse libre et indépendante, la relève et la peste, en faisant partie et qui finance la vente, qui se finance via la vente de livres, donc qui finance la liberté de ce site. Je vais quand même revenir un petit peu sur justement cette question d'imaginaire où les ressources que l'on met en commun, la Sécu qui finance notamment, qui a une branche sur les retraites, est attaquée. Les retraites sont d'un montant de plus en plus insuffisant et je ne voudrais pas défendre ici sur l'antenne à travers cette lecture l'idée que il y ait un salut dans le fait de se constituer un patrimoine, hein, parce que tout simplement parce que cette solution n'est pas extensible dans notre société. C'est justement parce qu'il y a des propriétaires et multipropriétaires que à l'autre bout de la chaîne, il y a des gens qui sont en situation de grande précarité. Et donc il n'y a aucune perspective à mettre pour soi de l'argent de côté. La seule perspective, c'est d'organiser la solidarité comme le modèle proposé par le modèle de la sécurité sociale qui présente un certain nombre de limites, je les ai évoquées tout à l'heure, mais en tout cas voilà, je voulais le repréciser, il ne s'agit pas de réagir finalement à cette grande difficulté des caisses de solidarité par une fuite en avant individualiste sur un modèle de consommation bourgeoise. On va sauver nos enfants, nos petits-enfants, mais en fait si tout le monde raisonne comme ça, on sauvera personne et on assurera un avenir pour personne, et surtout on continuera, comme on le sait à travers notamment l'effet accumulateur de l'héritage, on continuera à faire prospérer les inégalités. Voilà l'information principale. Donc, les 500 familles les plus riches de France détenaient il y a 14 ans 12% du PIB. Aujourd'hui, c'est 42%. C'est une accélération phénoménale de la concentration de richesses qui rejaillit aussi sur les médias. Allez, toujours sur l'économie, donc je voulais vous faire part d'une chronique de Denis Bayon dans la revue La Décroissance, dont je vais faire la promotion, donc La Décroissance du mois de mai-juin 2026 est parue, donc vous pouvez l'acheter en kiosque, si vous trouvez quelques journaux à côté de la malbouffe et de la vente de boissons sucrées. Il y a quand même encore un peu de journaux dans les kiosques. Mais faut acheter cette presse. Donc là, cette revue est consacrée à pour titre Libérons-nous du progrès. Bien évidemment, je vous la conseille, je ne peux pas parler de tout. Et je voulais revenir sur l'article L'économie et le chaos de Denis Bayon, donc c'est en page 5, qui nous rappelle qu'en 2020, le journal de référence, donc Le Monde, enfin il y a des guillemets sur journal de référence, affirmait que nous étions en train d'entrer dans l'ère du pétrole à bas prix, que la demande était vouée à diminuer rapidement, que l'accélération de la transition énergétique allait même conduire à la fin rapide de l'or noir. Billevesé, la guerre au Moyen-Orient le rappelle, le monde est totalement dépendant du pétrole, que l'approvisionnement en énergie fossile soit contrarié et aussitôt s'accumule crise économique, fragilisation des populations d'automobilistes et désastre alimentaire. accrochez vos ceintures. L'inquiétude extrême gagne Homo Petroleus. Quelle surprise, avec l'intrication achevée des activités de production à l'échelle planétaire, le bombardement de l'Iran et ses répliques dans tout le Moyen-Orient fragilise l'économie mondiale, dans laquelle plus personne, ou presque, ne sait désormais vivre sans pétrole. Bienheureux les derniers chasseurs-cueilleurs cachés dans une forêt profonde qui ignorent tout de l'importance stratégique du détroit d'Hormuz et de l'état des pipelines d'Arabie Saoudite. La mondialisation devrait être source de paix éternelle du fait de la dépendance universelle des peuples en marchandises, en énergie. Raté. Si j'avais le choix, qu'aimerais-je faire ? Prendre le pétrole en Iran parce qu'il est là, à prendre, assénait Donald Trump le 6 avril. La prédation et le nihilisme guerrier l'emportent. C'est pourquoi les sanctions contre la Russie, qui devaient, paraît-il, la conduire à la reddition, ont été révisées dans l'urgence. L'État indien, ami des États-Unis, est étranglé par la flambée des prix de l'énergie. Trump autorise le pétrole russe à flotter vers New Delhi pour soulager le marché mondial. Une telle mesure est bientôt étendue à toute la région pour une durée d'un mois, renouvelable. Confronté à la perte de son fournisseur iranien, Pékin pourra aussi compter sur le pétrole de Poutine, quand il n'est pas bombardé par des drones ukrainiens. La Chine, ennemie de l'Occident, accueille nombre d'entreprises américaines et françaises, dont celle de l'automobile, qui y ont monté des alliances et transféré des brevets pour faire de l'électrique. Elle demeure donc stratégique, comme le rappelle aimablement la Chambre de commerce américaine en Chine. Mais le pétrole russe ne suffit pas. L'heure est à la pénurie. La Corée du Sud est en alerte énergétique, les Philippines en état d'urgence énergétique. Les camionneurs chinois sont à l'arrêt aussi. Pour sa production d'électricité, l'Asie brûle toujours plus de charbon, une ressource locale pour des prix raisonnables et peu fluctuants. Vive la transition bas carbone. La pauvre Union européenne, quant à elle, envoie une mission d'inspection en Ukraine afin de rouvrir l'oléoduc d'Oujbra, le plus long du monde, endommagé selon Kiev, pour que le pétrole de la Russie, ONI, alimente la Hongrie, membre de l'Union européenne, et en même temps, sous le régime d'Orban, en meilleurs termes avec Poutine et Trump. Car menacé dans ses approvisionnements énergétiques, l'État hongrois bloque un prêt européen de 90 milliards d'euros à l'Ukraine, qui lui permettrait de continuer la guerre contre la Russie. La récente élection du pro-Union européenne Peter Magyar changera-t-elle la donne ? Point d'interrogation. Aux dernières nouvelles, l'Ukraine promet que l'oléoduc sera bientôt réparé. Pétrole et pognon continueraient ainsi de couler à flot pour le plus grand bonheur des marchands de canons. Les perdants au chaos économique sont innombrables. Les plus pauvres des pauvres sont étranglés par la hausse des prix des denrées alimentaires, dont le transport comme la production, les machines, la pétrochimie, les engrais, sont tributaires des combustibles fossiles. L'Asie compterait bientôt 9 millions de personnes supplémentaires souffrant de la faim. Ce serait 18 millions en Afrique de l'Est, 10 millions en Afrique de l'Ouest et centrale. Toute proportion gardée, la facture est aussi salée pour les classes populaires des nations riches. La guerre de Trump en Iran accroît les prix de l'énergie au pays où la bagnole est encore plus reine qu'en France. Mais oui, c'est possible. Savez-vous pourquoi l'essence est si chère ? Réponse, à cause des 200 milliards de dollars que coûte la guerre de Trump en Iran. Tel est le cœur de la campagne démocrate pour les élections de la mi-mandat, Washington Post, du 7 avril. Le litre d'essence coûte déjà l'équivalent de 0,76 € et horreur, il pourrait se renchérir encore. Voilà un prix qui ferait rêver les travailleurs français dépendant de l'automobile. Vive la voiture qui nous rend libres. Au-delà du seul coût de l'énergie, une question clé se pose aux nations qui se remilitarisent. Combien de temps tiendra encore leur économie civile déjà portée à bout de bras par des bulles financières avec un tel transfert de ressources improductives vers les armes sophistiquées lorsque les guerres se déchaînent ? Toute tentative de restaurer militairement l'ordre accroît le chaos. Ce sont maintenant les milices chiites iraniennes qui entrent en guerre aux côtés de l'Iran. Ironie suprême, l'efficacité d'armes valant des millions l'unité est mise à mal par des attaques bien menées de drones à 15 000 dollars pièce. Une belle démonstration de compétitivité par l'innovation pendant que les infrastructures énergétiques cruciales sont ciblées, y compris la centrale atomique de Bouchehr, attaquée par Israël et les États-Unis. Vive le nucléaire décarboné. L'écologie politique a toujours défendu l'autonomie économique, la déconcentration des pouvoirs. Si elle avait été prise au sérieux, les flux internationaux de matières auraient été fortement limités. La vie matérielle de milliards d'humains n'aurait pas autant dépendu de l'efficience des marchés mondiaux, de leur bonne administration, de plus en plus coûteuse, par d'immenses États centralisés. Une société écolo aurait certes été plus pauvre qu'une société technicienne hautement efficace, alimentée par les ressources du monde entier, mais beaucoup plus riche lorsque cette dernière ne peut plus compter sur leur abondance. Dans la douleur, les automobilistes smartphonisés que nous sommes finiront peut-être par le comprendre. Voilà, pour introduire cette émission, on va s'accorder une pause musicale. Vous êtes bien à l'écoute de Radio Libertaire sur 89,4 MHz. Voilà, c'était Aude à la vie, un titre de Alain Bachung. Vous êtes à l'écoute de Radio Libertaire sur 89,4 MHz dans l'émission Les Mangetaires qui reprend son cours autour de l'actualité. Sur les questions écologiques et sociales avec sur la rubrique de l'eau et en glissant aussi avec celle de l'agriculture hein, puisque les deux sont quand même souvent enfin l'eau est souvent impactée par cette activité agricole. Je voulais revenir sur un communiqué de la Confédération paysanne du 28 mai avec l'appel de Sainte-Soline, un procès de la disproportion pour criminaliser les défenseurs de l'eau. En effet, après 6 heures d'audience, l'avocate générale a requis les mêmes peines qu'en première instance contre les 4 défenseurs de l'eau jugés ce 28 mai devant la cour d'appel de Poitiers pour l'organisation de la manifestation interdite de Sainte-Soline en mars 2023. De la prison avec sursis pour Julien Le Guette de Bassine Non Merci, donc 6 mois. Et Benoît Feuillu des Soulèvements de la Terre pour 3 mois, donc de prison avec sursis. Et une amende de 1 000 euros contre Nicolas Giraud et Benoît Jonnet, à l'époque respectivement porte-parole nationale et porte-parole des Deux-Sèvres pour la Confédération paysanne. Les avocats de la défense ont demandé la relaxe. Le délibéré sera rendu le mois prochain, le 1er juillet, dans un mois tout pile. Le parquet s'en est tenu à une analyse de surface, reconnaissant une enquête ayant ciblé le plus simple et les plus visibles pour justifier de poursuivre individuellement 4 personnes parmi 30 000 manifestants et les 150 organisations soutenant la manifestation. Les avocats ont demandé à la cour d'appel de ne pas leur attribuer, faute d'éléments constitutifs, la responsabilité de l'organisation. Pour la Confédération paysanne, la mobilisation de Sainte-Soline pour dénoncer l'accaparement de l'eau par une minorité et réclamer une autre gestion de ce commun est issue d'une décision collective, comme à chaque fois. Pardon. Cet entêtement détonne avec une justice qui refuse d'identifier l'auteur du tir tendu illégal qui a failli tuer Serge lors de la manifestation et à mettre en cause la chaîne de commandement. Mediapart et Libération ont pourtant réussi en étudiant minutieusement toutes les images produites par la gendarmerie elle-même ce jour-là, donc réussi à mettre en cause cette chaîne de commandement. Ce procès rentre aussi en écho avec le débat sur le projet de loi d'urgence agricole, un moment politique qui remet au centre de l'actualité la question du partage, de la gouvernance et de la priorisation des usages de l'eau. La répression judiciaire ne fait que soutenir la politique agricole du gouvernement qui va à l'encontre de l'intérêt général. Les débats en cours à l'Assemblée nationale sur ce texte en sont un reflet déplorable. Tous les signaux climatiques, géopolitiques et économiques sont au rouge et appellent à un changement de cap. Pourtant, à l'Assemblée nationale, la droite, l'extrême droite et le bloc central ne pensent qu'à faire construire des méga-bassines remplies avec l'eau pompée dans les nappes et non tombées quand il pleut. Les méga-bassines sont présentées comme une solution pour le revenu, alors que ces projets ne sont pas viables économiquement, ni pour les paysans, ni pour la société. Nous rappelons donc la Confédération paysanne la nécessité et l'urgence à agir pour les politiques publiques agricoles radicalement différentes. Malgré la répression judiciaire et policière, notre détermination et notre mobilisation restent intactes. Nous serons d'ailleurs mobilisés dès le 7 juin à Rennes pour dénoncer les attaques contre la gestion démocratique de l'eau du sage Vilaine. Chez Mme Aménagement et Gestion des Eaux, je pense que c'est ça le sage. Autre article toujours sur l'eau, un peu plus long celui-là, avec Génération Future, alors je ne vais pas le lire mais je vous le signale, un article du 15 mai 2026 nitrates, pesticides, pollution de l'eau, la Cour des comptes met en lumière comment les politiques agricoles nuisent à l'action de la police de l'eau. Je vais peut-être juste vous en lire la fin de cet article. Le rapport démontre que la France n'applique pas son propre droit en matière de protection de l'eau. Deuxièmement, que les pesticides et nitrates d'origine agricole continuent de dégrader massivement nos ressources en eau sans que des sanctions effectives ne soient prononcées. Or, les données montrent qu'il existe un impact positif de l'action de la police de l'eau sur la qualité de l'eau. Troisièmement, les outils existent, les textes existent, mais la volonté politique de les faire respecter fait défaut. Quatrièmement, le risque de contentieux européen est réel et chiffré, d'un coût estimé à 25 à 30 millions d'euros d'astreinte potentielle. Conclusion de l'article. Nous demandons donc au gouvernement la mise en œuvre des recommandations de la Cour des comptes, en particulier sur la convergence entre politique agricole et politique de l'eau. La preuve est désormais établie que l'action de la police de l'eau, lorsqu'elle est réellement mise en œuvre, produit des effets positifs mesurables sur la qualité de l'eau. L'exception bretonne en est la démonstration. La question n'est donc pas celle des moyens juridiques qui existent, c'est celle de la volonté politique de les mobiliser. La Cour des comptes a fait son travail, il appartient désormais au gouvernement de tirer les conséquences de ce diagnostic et à la société civile de s'assurer qu'il le fasse. Génération Future y veillera, a déclaré son représentant, voilà, sur ce rapport de la Cour des comptes qui a été publié au mois de mai, donc ce mois-ci, et je vous renvoie vers l'article plus complet sur le site de Génération Future. Si on ouvre la page agriculture, alors on a bien la grande distribution dans un article de Reporter, la revue en ligne du 28 mai. La grande distribution qui réalise des marges 81% plus élevées sur les fruits et légumes bio. Si les fruits et légumes bio, donc un article du 28 mai, si les fruits et légumes bio coûtent beaucoup plus cher que leurs équivalents produits de manière dite conventionnelle dans les supermarchés, eh bien ce n'est pas seulement à cause des coûts de production plus importants pour les agriculteurs, c'est surtout parce que la grande distribution pratique des marges beaucoup plus élevées sur ces produits, révèle l'association Que Choisir Ensemble, anciennement UFC Que Choisir, dans un rapport qui est paru le mercredi 27 mai. L'association de consommateurs a calculé que la marge réalisée sur les fruits et légumes bio est en moyenne 81% plus forte que pour les mêmes produits issus de l'agriculture conventionnelle. Pour certains fruits ou légumes, c'est même encore plus. Exemple avec les tomates bio. Le prix agricole n'est que 44% plus élevé qu'en conventionnel, donc ça c'est le coût réel, mais la marge de la distribution est 113% plus élevée. Pour le consommateur, 73% du surcoût de la tomate bio est imputable à la marge de la distribution et seulement 27% au surcoût agricole réel. Selon Que Choisir Ensemble, le budget annuel de fruits et légumes bio pour un foyer est de 732 € contre 460 pour les produits conventionnels. Sur ce surcoût de 272 €, les agriculteurs bio récupèrent seulement 38% du montant, alors que la grande distribution accapare 57% du surcoût total sous forme de surmarge. Ces surmarges ne sont pas liées à la fragilité de certains produits, mais à une stratégie commerciale délibérée, estime Que Choisir Ensemble, qui demande à la grande distribution de modifier sa politique de tarification en faveur des produits les plus sains. En tout cas, est-ce qu'en le demandant, on peut l'obtenir ? En tout cas, c'est déjà un premier pas que d'établir ce constat, et on peut bien se féliciter que l'association Que Choisir Ensemble ait montré que la grande distribution se fait de la surmarge sur le bio. On dit que le bio est cher, et bien écoutez, il est certes plus cher que le conventionnel, qui lui-même est très subventionné, hein, en tout cas pour le coût consommateur, mais en tout cas une marge importante est donc appliquée à ces produits, et c'est important de le dire, bien les supermarchés prennent les consommateurs de bio pour des vaches à lait. La Confédération paysanne, donc dans un communiqué du 22 mai, qui revient sur cette question des engrais, qui nous dit qu'il ne faut pas chercher à maintenir notre dépendance, mais surtout prendre des mesures urgentes pour en sortir. Qui déplore une réunion pour rien avec un gouvernement qui s'entête à ne pas analyser ni comprendre ce qui se joue dans la crise des engrais déclenchée depuis le blocage du détroit d'Ormuz. Une nouvelle fois, seules des mesures d'urgence sont esquissées afin de sauver en priorité les plus gros acteurs économiques des filières agricoles, céréalières en particulier. Pour les commerçants d'engrais et les coopératives, une seule chose semble compter, que les paysans continuent de consommer des engrais et que notre capacité d'exportation soit maintenue. Quid du devenir des paysans ? Ce n'est pas du tout anticipé à l'occasion de réunions comme celle qui avait eu lieu donc le vendredi 22 mai. Pour la Confédération paysanne, l'urgence doit être aussi de permettre aux paysans et paysannes de sortir de la dépendance aux intrants importés qui fragilisent les fermes. Ce que révèle cette crise, c'est bien que nous sommes pris dans un effet de ciseau entre cette dépendance et des prix fluctuants fixés par les aléas du marché et du contexte international. Maintenir notre dépendance aux engrais est une grave erreur, tout comme la mise en œuvre de palliatifs tels que l'augmentation de l'usage des effluents d'élevage, des boues d'épuration ou des digestats issus des méthaniseurs. Détricoter la directive nitrate pour développer l'usage de ces effluents ne ferait qu'accélérer la spécialisation des régions, la concentration des fermes et repousser la nécessaire transition agroécologique, qui doit s'appuyer sur la diversité des productions, la rotation des cultures et la polyculture-élevage. Sur la diversification des assolements, alors les assolements, c'est la division d'une terre agricole en plusieurs parcelles qui supportent des cultures différentes. Donc sur cette question-là, l'important est de réunir les conditions économiques pour pouvoir y intégrer plus de légumineuses et de protéagineux afin de réduire notre dépendance aux engrais et aux protéines pour l'alimentation animale. Seule une régulation par le prix pourra permettre le développement des légumineuses. Il est donc temps de mettre en place des droits de douane sur le soja OGM d'Amérique et de sortir de la seule logique économique et mettre l'économie au service de l'agronomie pour avoir une politique agricole cohérente et permettre l'autonomie des fermes. Les trois priorités sont, premièrement, de permettre l'autonomie des fermes d'abord par une meilleure rémunération des productions. Deuxièmement, d'agir contre la dépendance aux engrais en mettant en place une gestion des volumes, des prix planchers et différenciés ainsi qu'une sortie des logiques de libre-échange. Et enfin, troisièmement, d'engager des mesures structurelles pour accompagner la transition vers des filières plus robustes. Voilà pour ce communiqué de la Confédération paysanne. Je voulais aussi évoquer cette information sur l'utilisation de pesticides non autorisés en Europe. Non autorisés dans l'Union européenne, des pesticides comme le Movento, le Verseon et l'Avanza sont autorisés en France par dérogation, a révélé donc le 7 mai le média en ligne Basta, donc Basta Mag. Selon la réglementation européenne, en cas de circonstances exceptionnelles comme un danger ou une menace compromettant la production végétale, le ministère de l'Agriculture peut accorder une dérogation de 120 jours maximum. La filière betteravière est, selon la décision du ministère de l'Agriculture relayée par Bastamag, la première à avoir bénéficié en 2024 de cette dérogation pour le Movento, notamment susceptible de nuire à la fertilité et au fœtus et qui est toxique pour les organismes aquatiques. Récemment, en mars, les pomiculteurs ont été autorisés à réutiliser cet insecticide. Même scénario pour la filière des fruits à pépins et fruits rouges. Depuis le 1er mars, une dérogation autorise l'utilisation du Movento. En 2024, la France a accordé 83 dérogations de pesticides, en deuxième position derrière l'Italie. Un chiffre qui tend à augmenter ces dernières années, d'après Bastamag. D'après ses calculs, au 30 avril 2026, 58 dérogations ont d'ores et déjà été accordées par le ministère. Dans la liste des dérogations, Bastamag a également identifié la substance active d'impropyridase, composant l'insecticide Verseon ou encore le benzobicyclone présent dans le désherbant Avanza. Ces deux substances n'ont pas été approuvées par l'Autorité européenne de sécurité des aliments, l'EFSA, ni homologuées au niveau européen. Et pourtant, elles sont utilisées. Donc, et puis peut-être sur un sujet un peu plus récent, un peu plus d'actualité, puisque c'était la fête des mères le week-end dernier, c'était hier même, à l'occasion de la Saint-Valentin et de la fête des mères 2025, Agir pour l'environnement, l'association a fait analyser par un laboratoire indépendant 27 échantillons de fleurs coupées parmi les plus achetées. 99 pesticides différents ont été identifiés dans ces fleurs, dont 46 sont interdits ou actuellement non autorisés en France. Parmi ces 46 substances, 6 appartiennent à la famille des néonicotinoïdes, des insecticides dits tueurs d'abeilles. Alors, à travers cette enquête, Agir pour l'environnement formule 4 demandes principales. Un étiquetage obligatoire sur l'origine des fleurs coupées. Une protection réelle et immédiate des fleuristes, parce que effectivement la profession, bah, c'est comme aussi les paysans qui utilisent des pesticides, bah, sont de manière générale les premières victimes. Troisièmement, un contrôle sur les produits interdits en France, avec à terme une interdiction d'importer des fleurs coupées contenant des pesticides qui sont interdits en France. Et enfin, un soutien aux filières françaises et le développement des alternatives de consommation. Les résultats d'analyse mettent en avant la contamination inquiétante des fleurs importées, notamment durant l'hiver, une saison qui n'est pas propice à la floriculture en France, à l'exception de quelques espèces de fleurs parfois difficiles à trouver sur le marché français. Toutefois, les analyses réalisées au mois de mai montrent que cette contamination ne se limite pas à la période hivernale. Des prélèvements de fleurs importées sont fortement contaminés par un mélange de résidus de pesticides, dont des substances interdites sur le marché français, et présentant des risques sanitaires sévères. Les fleurs françaises et de saison analysées à cette période sont quant à elles beaucoup moins, voire pas du tout, contaminées par des pesticides et ne contiennent pas de traces de molécules interdites. Ces alternatives aux roses et aux bouquets classiques de la fête des mères offrent ainsi un choix plus respectueux pour la santé des fleuristes qui les manipulent et des personnes auxquelles ces fleurs sont offertes, mais aussi pour l'environnement, nous précise l'association Agir pour l'environnement dans ce communiqué autour d'une enquête sur la pollution, la contamination par des pesticides, des fleurs qui sont vendues à différentes occasions. Allez, on s'accorde une pause musicale. Vous êtes bien à l'écoute de Radio Libertaire sur 89,4 MHz.
Just for life.
Voilà, c'était Lust for Life d'Iggy Pop. Vous êtes à l'écoute de Radio Libertaire, ce 89,4 MHz, dans l'émission Les Mangeterres, qui reprend son cours autour bien d'un tour d'horizon d'actualité, avec en ouvrant la page climat, effet de serre, énergie. Donc je crois qu'il n'y a pas tellement besoin, mais on va quand même y revenir avec le site reporter sur cette canicule qui, par son intensité, sa précocité, sa durée, la vague de chaleur que nous avons subie et en Île-de-France et sur tout le territoire français, notamment métropolitain, depuis plusieurs jours est historique selon Météo France. Toute la semaine, les records de température sont tombés les uns après les autres. Lundi 25 mai, la température moyenne qui associe les minimales et les maximales dans une trentaine de stations de référence a atteint 24,6 degrés. Jamais la France n'avait connu une journée de mai aussi chaude. 18 départements étaient placés en vigilance jaune canicule. Ce record a été battu dès le lendemain avec une température moyenne de 24,9 degrés à l'échelle du pays. Mardi 26 mai a été la journée la plus chaude jamais connue en France en mai, avec 9 départements de l'Ouest en vigilance orange canicule. Mercredi 26, 13 départements en vigilance orange, 33 degrés à Brest, 31,9 à Cherbourg, 35,6 à Niort, 400 records de température battus ou égalés. Jeudi 27 mai, la température a atteint 37,8 degrés à Angoulême-la-Couronne, en Charente, ce qui est le record absolu de chaleur pour un mois de mai en France, selon Météo France. Jamais un tel niveau de chaleur n'avait été mesuré au mois de mai depuis le début des relevés. Ce même jour, près de 195 000 lycéens ont passé leurs épreuves écrites du bac professionnel dans des salles surchauffées, y compris l'après-midi et jusqu'au vendredi 23 mai. Pourtant, les épreuves du bac des élèves en filière générale et technologique sont prévues uniquement le matin, une différence de traitement que dénoncent les enseignants qui en appellent à l'éducation nationale. Cet épisode caniculaire s'est poursuivi jusqu'à samedi, avec une nette baisse des températures donc depuis hier. Ce qui n'empêche pas que le pays connaisse d'autres vagues de chaleur cet été. Et surtout, ce n'est qu'un avant-goût de ce qui nous attend d'ici à 2050. Les canicules risquent d'être multipliées par deux à cause du dérèglement climatique. Voilà, on peut compléter en disant que on avait une occurrence, hein, la fréquence de retour de ces périodes caniculaires qui, à la fin du siècle dernier, était rare. C'était pas tous les ans. Or là, j'ai en tête écouté un météorologue qui disait que 2014 a été une exception, mais toutes les années, il y a au moins une période caniculaire. Donc c'est devenu extrêmement fréquent et c'est effectivement la tendance qui nous attend avec, bien sûr, l'aspect, c'était évoqué dans l'article aussi, l'aspect adaptation. Alors on peut parler du monde du travail en général, on peut parler aussi de l'éducation nationale. On a lu dans la presse des choses aberrantes, supprimer l'accès à l'eau pour éviter des batailles d'eau, que les enfants ne fassent des batailles d'eau. Les parents étaient assez scandalisés par, par ces consignes. Et bien, c'est pas forcément étonnant d'apprendre ça. Hein. On voit dans le monde du travail aussi une adaptation qui se fait de manière poussive. Hein. La prévention, c'est très souvent aller jusqu'à constater un accident pour réagir. Hein. Et effectivement, ça a été largement reproché. Les retards qui ont été pris sur l'adaptation sur les lieux de travail, on peut parler notamment de l'encouragement pour ceux qui le peuvent dans les services, les administrations, enfin qui le peuvent, le télétravail par exemple, ou toute autre mesure de bon sens. On voit que on est encore dans un mode de fonctionnement qui semble pas en prise sur le réel, hein. C'est d'ailleurs assez inquiétant. On travaille dans notre coin, on mène une activité économique et tout ça, ça repose bien sûr sur, eh bien, sur des ressources environnementales, même un environnement en tant que tel. Hein, et cela, on en fait abstraction. Alors peut-être en poussant un peu plus la clim, mais c'est quand même extrêmement inquiétant ces phénomènes. Et voilà, à titre personnel, j'ai peut-être eu l'occasion déjà d'en parler, mais quand je vois des collègues qui affichent leur carte postale de vacances destination lointaine et avec voyage en avion, sur leur mur, ça me fait pas rire, quoi. C'est par là que vient le problème, hein. C'est la, encore une fois, cet imaginaire consumériste. On imite la classe possédante avec les marqueurs extérieurs de richesse et on mesure pas la conséquence de nos actes. C'est quand même vraiment très inquiétant. Allez, bien, puisqu'on est sur l'énergie, il faut qu'on parle aussi du nucléaire. Alors, on va le faire avec Stéphane Lhomme, un communiqué qu'on n'avait pas pu évoquer, qui date déjà d'il y a un bon mois, 23 avril. L'Observatoire du nucléaire, donc, et qui nous annonce que les chiffres de 2025 ont été publiés. Et après que donc la part du nucléaire, hein, dans la production d'électricité mondiale, elle était tombée en dessous des 10% en 2021, elle est désormais passée sous les 9% en 2025, puisque ça ne représente plus que 8,85%, une part désormais proche de la marginalité. Pourtant, pendant ce temps, la majorité des médias français continuent d'évoquer un fantomatique retour en grâce du nucléaire. Contrairement à ce qui se dit habituellement, les catastrophes nucléaires de Tchernobyl en Ukraine et de Fukushima au Japon n'ont pas eu lieu le 26 avril 1986 et le 11 mars 2011. Elles ont commencé à ces dates et se poursuivent encore. Des centaines de milliers d'enfants nés 10, 20, 30 ou 35 ans après l'explosion du réacteur 4 de Tchernobyl sont aujourd'hui malades ou nés mal formés. Le même processus est hélas en cours au Japon. Pourtant, ce ne sont pas ces terribles événements qui entraînent la chute irréversible de l'industrie nucléaire mondiale, ce sont les réalités industrielles et financières. Trop cher, trop lent, archaïque, le nucléaire est submergé par les énergies renouvelables partout sur Terre et il voit sa part dans l'électricité mondiale se réduire à la portion congrue. Les données de chaque année donc, sont pourtant publiques, connues et reconnues, mais elles sont largement passées sous silence, hein, surtout en France, hein, le royaume de l'atome. En France en particulier, nous dit Stéphane Lhomme, le discours des dirigeants industriels et politiques relayé tel quel par trop de médias est que le nucléaire serait une énergie massive et en plein essor, et du coup que la France aurait raison de prévoir la construction de nouveaux réacteurs. D'innombrables reportages et articles portent d'ailleurs le même titre, évoquant un prétendu retour en grâce du nucléaire en France et dans le monde. Or, si on reprend l'ensemble des données donc, qui sont produites, je vous renvoie vers un graphique qui est produit par l'Observatoire du nucléaire. Depuis un quart de siècle et singulièrement ces dernières années, la part du nucléaire dans la production mondiale d'électricité n'a fait que décroître et montre même que le nucléaire vient de franchir une nouvelle étape décisive vers sa disparition. Après que la part du nucléaire soit tombée en 2021 sous les 10%, elle est passée à 8,85% donc en 2025, une part qui est très près, donc on voit, de la marginalité. À titre de comparaison, en 2025, les énergies renouvelables ont produit 33,8% de l'électricité mondiale, hein, c'est-à-dire, si on fait un calcul, près de 4 fois plus que le nucléaire. Qui plus est, alors que la part du nucléaire ne cesse de baisser, celle des renouvelables est en augmentation exponentielle. D'ailleurs, annoncé respectivement à 8,7% et 8,5% de l'électricité mondiale fin 2025, le solaire, donc 8,7%, et l'éolien, 8,5%, ont assurément d'ores et déjà chacun dépassé le nucléaire, lequel poursuit son effondrement, prochaines étapes passées sous les 8%, puis 7%, etc. De nos jours, sur de nombreux plateaux de télévision ou de radio, la question du nucléaire n'est traitée qu'avec des invités favorables à l'atome, sans la moindre contradiction. C'est même le cas sur le service public, dont on se demande bien à quoi il sert puisqu'il désinforme sur cette question autant que les chaînes détenues par les industriels, par exemple sur franceinfo.tv ou même au téléphone sonne de France Inter, avec des journalistes qui se contentent de relayer les éléments de langage de l'industrie nucléaire et de dérouler le tapis radioactif à leurs invités. Mais si vous arrivez à coincer un atomiste et le questionner sur la baisse du nucléaire, il vous répondra que c'est juste un contretemps provisoire causé par Fukushima. C'est faux. Si on reprend donc le graphique, le nucléaire a baissé en continu pendant 10 ans avant la catastrophe japonaise et fait notable, il a même baissé plus rapidement avant qu'après. Mais depuis 2021, la baisse a repris un rythme rapide. De même, les adorateurs du dieu atome prétendent que la Chine montre la voie vers un rayonnant âge du nucléaire. C'est encore faux. Certes, et hélas, l'Empire du Milieu construit quelques dizaines de réacteurs nucléaires, ce qui peut paraître énorme vu de chez nous, mais en réalité, la part du nucléaire dans l'électricité chinoise reste marginale, 4,47% en 2024, et surtout, elle est en baisse depuis 4 ans. En effet, après avoir atteint son apogée à 5,02% en 2021, elle est passée donc à 4,47% en 2024 et on est en attente des chiffres 2025. Ces données sont difficilement contestables car elles proviennent carrément de l'Agence internationale de l'énergie atomique et sont facilement consultables en ligne. À titre de comparaison, les énergies renouvelables produisent déjà plus de 35% de l'électricité chinoise. Donc là, on a un rapport de plus de 1 à 7, hein, une part en augmentation exponentielle. Jamais désespérés malgré les évidences, les promoteurs de l'atome prétendent que le fameux retour en grâce va produire ses effets dans quelques années, le temps que soient construits les innombrables nouveaux réacteurs effectivement annoncés ces derniers temps par divers chefs d'État ou de gouvernement. Mais l'expérience montre que l'immense majorité des projets nucléaires annoncés avec tambour et trompette sont finalement annulés, et là beaucoup plus discrètement. Un engouement comparable à celui que l'on vit actuellement s'est ainsi produit au début des années 2000 sous la houlette de Madame Lauvergeon, encensée par la majorité des médias, à deux différences près. Il ne s'agissait pas du retour en grâce mais du grand retour du nucléaire. Et l'autre différence, c'est qu'il fallait oublier Tchernobyl quand aujourd'hui nous voilà sommés d'oublier Fukushima. Les centaines de réacteurs qui devaient pousser partout sur Terre comme des champignons ont pratiquement tous été annulés, à part les chantiers catastrophiques des EPR français en Finlande et à Flamanville et en Grande-Bretagne, et des AP1000 américains avec les désastres des chantiers en Géorgie et Caroline du Sud. Seule la Chine construit correctement des centrales nucléaires, mais nous l'avons vu, ça reste pour elle une énergie de niche submergée par les renouvelables. Quant aux petits réacteurs modulaires, SMR, annoncés eux aussi avec fracas, leur fiasco est en cours, la plupart des acteurs ayant déjà déposé le bilan ou étant en passe de le faire, comme annoncé par l'Observatoire du nucléaire depuis plusieurs années. Divers médias ont couvert la publication du rapport d'Amber, et le moins qu'on puisse dire, c'est que les mensonges des dirigeants industriels et politiques français en faveur du nucléaire ne risquent pas d'être contrecarrés. En effet, la plupart de ces médias se sont contentés de titrer sur deux données, par ailleurs intéressantes. En 2025, le solaire et l'éolien ont pour la première fois produit plus d'électricité que les énergies fossiles, principalement le charbon et le gaz, dans l'Union européenne. Et, deuxième titre mis en avant, les renouvelables ont produit plus d'électricité que le charbon au niveau mondial. mais rien n'a été diffusé dans la presse sur le fiasco du nucléaire. Seul le quotidien économique Les Échos, pourtant clairement favorable à l'atome, a publié le 21 avril un article titré « Électricité, le solaire et l'éolien dépasseront le nucléaire cette année », sans toutefois aller jusqu'à évoquer la baisse continue de l'atome depuis 25 ans ou son passage sous les 9% en 2025. Faut rappeler oui, que la part du nucléaire dans l'électricité mondiale, c'était 17% en 2001 et 8,85% donc en 2025. La réalité est implacable, alors que l'essor des renouvelables s'accélère encore, l'industrie nucléaire mondiale est confrontée à la fermeture inéluctable dans les années à venir de centaines de réacteurs très anciens. La part du nucléaire va donc continuer à se réduire inexorablement sur Terre. L'incapacité de la majorité des médias français à dire la vérité sur le nucléaire a bien de quoi contenter EDF et messieurs Macron et Le Cornu qui, en dépit de tout bon sens, ont annoncé dernièrement des dépenses insensées en faveur de l'atome. Il s'agit de profiter de ce que la population française ignore, que le nucléaire est une voie de garage et que les centaines de milliards prévus pour construire de nouveaux réacteurs, à condition bien sûr qu'EDF retrouve la notice de fabrication, seront irrémédiablement gaspillés. Si par extraordinaire, EDF parvient à construire et mettre en service un premier EPR de deuxième génération, officiellement vers 2038, dans la réalité, au mieux entre 2040 et 2045, les renouvelables produiront alors la grande majorité de l'électricité mondiale, et ce à des coûts encore plus bas qu'aujourd'hui. Personne ne voudra de la production nucléaire d'EDF, ruineuse, dangereuse, archaïque. Il est bien sûr encore temps d'annuler les projets nucléaires d'EDF, mais pour y arriver, il serait bon que la population française soit informée de la réalité du nucléaire, à savoir qu'il s'agit d'une industrie sans avenir et dont la part dans la production mondiale d'électricité est désormais marginale et va continuer à se réduire. Voilà qui est dit. Allez, on s'accorde une pause musicale et on se retrouve juste après. Vous êtes à l'écoute de Radio Libertaire sur 89,4 MHz.
Pour Gibraltar, pour Athènes, pour t'affiler. Nous partons d'Isolée Mousse, pour Malte où les nuits sont douces comme le lait. Nous partons, dit le pilote, pour l'Inde où la jonque flotte. Pour Tétouan, pour Chypril aux belles femmes, et pour le pays des hommes, dit l'océan. Hommes, vous rêvez de croire que vous vaincrez mon eau noire, aux fiers bouillons. Et ma vague aux mille étincelles, en pendant à des ficelles, quelques rayons. C'est donc là votre navire, une écorce qui chavire, sous tout climat. Cette épingle qui m'éraille, c'est l'encre et ce brin de paille, c'est le grand mât. Ces quatre planches mal jointes se déchireront aux pointes du moindre écueil. L'homme au front triste aux mains blanches ne s'est cloué que les planches de son cercueil. Gibraltar pour Athènes, pour t'affiler. Nous partons d'Isle-les Mousses, pour Malte toutes les nuits sont douces, comme le lait.
Voilà, c'était un poème de Victor Hugo chanté par Mark Robin. Donc le poème s'appelle L'Océan et j'en profite pour dire que Mark Robin est aussi l'interprète du générique de l'émission Les Mangeux de Terre. Voilà, bah, ça fait double ration de Mark Robin. On reprend le cours de l'émission qui est dans sa dernière partie. Alors, avec un article aussi sur le transport et le vélo, publié par Reporter, la revue en ligne, le 29 mai. Un article signé Lauriane Cholez, qui revient sur l'abandon du plan vélo et ses conséquences pour la santé, améliorer la santé et faire des économies pour la société. Ce sont là les bénéfices de la marche et du vélo, selon la Fédération française des usagères et usagers de la bicyclette. Mais les politiques publiques sont à la traîne. Marcher et faire du vélo, c'est bon pour la santé. Les associations et les écologistes ne cessent de le répéter, mais le dernier rapport de la FUB, donc Fédération française des usagers de la bicyclette, usagères, enfonce le clou en convoquant un panel d'experts du monde de la santé sur le sujet et en rassemblant toute une série d'études sanitaires et économiques. Le rapport rappelle un constat. La sédentarité tue et coûte cher à la société, environ 17 milliards d'euros par an. En 30 ans, les capacités cardiovasculaires des enfants et adolescents ont diminué d'environ 25%. Et l'inactivité physique constitue la quatrième cause mondiale de mortalité prématurée. Face à cette situation, les solutions existent. Enfourcher sa bicyclette ou ses baskets. Toujours selon le rapport, un kilomètre à vélo équivaut à 1 euro économisé pour la société. Pédaler 100 minutes chaque semaine réduit de 10% la mortalité. Enfin, une augmentation de la part modale de la marche dans nos déplacements, aujourd'hui qui est établie à 23%, pourrait générer jusqu'à 57 milliards d'euros de bénéfices. Mais les efforts individuels demeurent insuffisants, faute de politique publique volontariste pour adapter les espaces publics à ces mobilités actives. Le rapport dénonce des injonctions contradictoires en incitant les familles à modifier leur comportement sans garantir les environnements adaptés. L'exemple du sacrifice du plan vélo et marche est à ce titre éloquent. Lancé en 2023 et initialement doté d'un budget de 250 millions d'euros par an, il visait à structurer des politiques publiques en faveur des mobilités actives. En 2025, moins d'un cinquième des cofinancements promis ont été effectivement investis par l'État, regrette la FUB. En dépit de ces bénéfices largement documentés, la baisse des financements nationaux de l'État à destination de la promotion du vélo illustre la difficulté à considérer la promotion de la santé comme un investissement à moyen et long terme, plutôt que comme une variable d'ajustement budgétaire, estime le rapport. Pourquoi les politiques ne sont-ils pas à la hauteur, malgré la pléthore d'études prouvant les bénéfices des mobilités actives? Les élus qui vont investir n'en verront pas les retombées directes, car les économies sont plutôt réalisées par les services publics de santé, explique Laura Schultz, kinésithérapeute, co-rédactrice du rapport et spécialiste en santé environnementale. En clair, construire une piste cyclable permet d'améliorer la santé des usagères et usagers et donc de faire des économies pour la sécu, mais ça ne fait pas rentrer de l'argent directement dans les caisses de la municipalité concernée. De plus, de tels aménagements engendrent des travaux s'étalant parfois sur plusieurs années, favorisent le mécontentement des habitants. Les mandats des élus étant limités dans le temps, ils ne bénéficient pas toujours des retombées positives de ces aménagements. Pour faire bouger les choses, le rapport énonce plusieurs recommandations, comme la relance d'un plan vélo et marche ambitieux permettant de financer une meilleure sécurisation des abords des écoles et des établissements de santé, ainsi qu'un développement des réseaux cyclables et piétons. La FUB propose également le lancement d'une campagne nationale de prévention, bouger, respirer, pédaler, mais aussi une meilleure intégration de ces problématiques dans le système de soins et la prévention médicale. Il faudrait faire avec le vélo et la marche ce qu'on fait avec le tabac. Quand un patient nous dit qu'il veut arrêter de fumer, on le soutient dans sa démarche et on l'oriente vers les professionnels concernés, explique Laura Schultz. Elle donne l'exemple d'une de ses patientes en situation de handicap qui souhaitait apprendre à pédaler. Elle l'a dirigée vers une association de cyclistes donnant des cours pour adultes. Les solutions existent, il manque simplement des charnières pour les articuler et adresser nos patients aux bonnes personnes, poursuit-elle. Si ce rapport de la FUB insiste autant sur les bénéfices sanitaires de la marche et du vélo plutôt que les avantages environnementaux, c'est pour convaincre un public plus large. La question du transport est devenue très clivante. On catégorise souvent le cycliste comme étant un bobo urbain alors que tout le monde aurait à y gagner, même une dame de 65 ans vivant en zone rurale, assure Laura Schulz. Voilà donc pour cet article, et on va le compléter par des éléments statistiques donc publiés par Reporter, toujours la revue en ligne, le 22 mai, puisque selon le réseau Vélo et Marche, l'usage du vélo a progressé de 5% sur les 4 premiers mois de 2026. Par rapport à 2025, les chiffres révèlent un contraste saisissant, plus 9% dans les communes rurales et de densité intermédiaire contre plus 4% dans les grands centres urbains, indique l'association. Faudrait-il y voir un effet de l'augmentation du coût du carburant provoqué par la guerre au Moyen-Orient ? Difficile d'établir un lien de causalité directe, admet le réseau Vélo et Marche, qui note cependant que la progression de la petite reine s'est élevée en même temps que le prix de l'essence. La progression est particulièrement forte dans les territoires moins denses, là où les distances sont les plus longues, et où la dépendance à la voiture reste structurelle, révèle également l'association. En parallèle de ce constat, la consommation de carburant en France avait diminué de 11% en avril, et de 14% du 1er au 20 mai par rapport à la même période l'an dernier. Pour la relancer, le gouvernement de Sébastien Lecornu a annoncé le 21 mai débloquer 710 millions d'euros pour faire face à la hausse des prix des carburants. Les aides pour les agriculteurs, les transports, la pêche et le BTP vont être prolongées jusqu'à l'été. Les indemnités kilométriques des aides à domicile et des fonctionnaires vont être revalorisées. Une fausse solution, selon le réseau Vélo et Marche, subventionner l'essence reste une réponse conjoncturelle, investir dans les infrastructures cyclables et la marche est une réponse structurelle. Les données de fréquentation montrent que les usagers, eux, n'attendent pas, quand le carburant devient trop cher, une partie d'entre eux pédale. Et puis un article également, alors un peu qui élargit un peu le propos et qui est un petit peu étonnant, qui fait le lien entre le transport et la pollution. Alors on va plutôt parler, évidemment, ça va parler pneus, alors c'est pas les pneus des vélos, hein, parce qu'il y a quand même un rapport poids, usure des pneus qui est quand même voilà, très très important, puis la quantité aussi de véhicules en circulation. Le communiqué de presse du 28 mai d'Agir pour l'association Agir pour l'environnement concerne l'abrasion des pneus, qui est une source de pollution atmosphérique majeure et qui menace la santé humaine. En effet, une étude allemande a récemment identifié l'abrasion des pneus comme cause majeure de la présence de micro et nanoparticules de plastique dans l'air. Au regard de la composition toxique de ces particules, révélée fin 2025 par Agir pour l'environnement, l'association alerte sur la gravité de la situation. Selon donc cette étude allemande, 65% des micro et nanoparticules de plastique détectées dans l'air de la ville de Leipzig proviendraient de l'abrasion des pneus, devenue une source majeure de pollution atmosphérique. Cette situation est vouée à s'aggraver avec l'augmentation du poids des véhicules. Dans une étude publiée en 2024, Agir pour l'environnement montrait déjà que les véhicules électriques, beaucoup plus lourds que les modèles thermiques, accélèrent fortement l'usure des pneus et les émissions de particules associées. L'étude allemande explique également qu'un habitant de Leipzig inhale en moyenne 2,1 microgrammes de particules plastiques issues des pneus chaque jour, dont la moitié est susceptible de pénétrer profondément dans les poumons. Selon les modélisations des chercheurs, respirer une telle quantité de microplastique pourrait augmenter le risque de décès cardiovasculaire de 9% et par cancer du poumon de 13%. Ces modélisations des impacts sanitaires de la pollution atmosphérique, notamment liées à l'abrasion des pneus, sont particulièrement alarmantes. Elles apparaissent néanmoins cohérentes au regard de la composition chimique des pneumatiques. Le rapport d'analyse publié par Agir pour l'environnement en 2025 a révélé que les pneus des 6 principales marques européennes contenaient notamment 111 substances fortement toxiques pour les milieux aquatiques, 237 substances ayant des effets néfastes à long terme sur ces écosystèmes, 85 substances potentiellement mortelles en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires, 112 molécules cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques, ainsi que des dizaines de substances mortelles en cas d'ingestion, d'inhalation ou de contact cutané. Agir pour l'environnement appelle les pouvoirs publics et l'ANSES à s'emparer urgemment de la question de l'abrasion des pneus, véritable bombe sanitaire, aux conséquences majeures pour la biodiversité comme pour la santé humaine. Voilà, je peut dire aussi, peut-être aussi en conclusion, qu'effectivement la réduction de la circulation automobile est absolument une nécessité, et que bien tous les moyens possibles, ou en tout cas la rationalisation, hein, c'est aussi le fait que les véhicules sont occupés à 1,3-1,4 passagers occupants. Donc là, il y a un vrai problème, hein. On a finalement développé un outil en faisant croire que on pourrait individuellement bien se déplacer de façon neutre sans que ça pose de problème. Or là, c'est justement la problématique. Donc il y a à la fois la question des alternatives, hein, les renouvelables, on en a parlé avant, mais aussi une maîtrise des trafics routiers et surtout arrêter la sous-occupation aussi des véhicules individuels. Les facteurs sont multiples, mais on doit changer de modèle, notamment quand on repense à ces publicités pour les voitures, dont le trait particulier est que les routes sont totalement vides, hein, et uniquement occupées par le seul véhicule dont on vante, dont on fait la promotion. Voilà, c'est un imaginaire complètement délétère et dont on paye le prix au niveau de la santé. Voilà, et je voulais aussi faire écho à un article publié par Zero Waste France le 20 mai sur le sujet de la consigne. Un article qui nous dit que la priorité doit rester le réemploi. Alors il y a quatre associations: France Nature Environnement, encore Surfrider Foundation Europe, No Plastic in My Sea et Zero Waste France. Donc zéro déchet en France, rappelle que la priorité pour lutter contre la pollution plastique ainsi que soutenir l'économie et la souveraineté française, eh bien, c'est de soutenir le réemploi des emballages. À la suite de la déclaration qui a été faite donc le 20 mai par le président de la République au salon Reuse, appelant le gouvernement à accélérer la concertation sur le recyclage des bouteilles plastiques, les quatre associations, dont Zero Waste France, rappellent que la priorité pour lutter contre la pollution plastique, ainsi que soutenir l'économie et la souveraineté française, est de soutenir le réemploi des emballages. La loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, AGEC, AGEC, promulguée en 2020 au début du premier mandat d'Emmanuel Macron, a été pionnière et avait pour ambition de renouer avec la logique de sobriété. Elle a fixé des objectifs structurants: 5% d'emballages réemployés dès 2023, 10% en 2027, une réduction de moitié des bouteilles plastiques à usage unique à l'horizon 2030. Ce faisant, la France a inspiré des dizaines d'États européens et non européens à agir dans la lutte contre la pollution plastique. Pourtant, 6 ans après, le constat est sans appel. Ces objectifs ne sont pas atteints. Le taux de réemploi des emballages stagne à 1,8% en 2024 et concerne en majorité des sacs de caisses réutilisables. La consommation de bouteilles plastiques, à l'inverse, continue de croître, plus 9% entre 2021 et 2023. Résultat, des centres de lavage comme Usage, U-Z-A-G-E, mettent la clé sous la porte et les emballages font toujours partie des 10 déchets les plus retrouvés sur les plages européennes et plus globalement dans l'environnement. L'enjeu central est donc de renverser la tendance en diminuant la production et la consommation de déchets plastiques, notamment les emballages, et ce, en déployant la consigne pour réemploi. Loin de s'attaquer aux quantités d'emballages produites chaque année, le recyclage constitue une réponse très partielle au problème des déchets plastiques. En pratique, une faible proportion des déchets plastiques est vraiment recyclée, seulement 27%. La majorité est en réalité décyclée, c'est-à-dire transformée en produits différents, de moindre qualité et plus difficiles à recycler à nouveau. D'autant que les plastiques recyclés nécessitent l'ajout de plastique vierge pour être réutilisés. Le recyclage des emballages plastiques soulève également d'importantes préoccupations liées au rejet de micro- et nanoplastiques. À l'heure où les études scientifiques se multiplient sur les impacts sanitaires des microplastiques, la consigne pour réemploi permettrait au contraire de lutter contre ce fléau et d'orienter les consommateurs et consommatrices vers des matériaux plus sûrs. Pour Marine Bonavita, chargée de plaidoyer chez Zero Waste France, développer la consigne pour recyclage, c'est permettre au système du tout jetable de perdurer sur le long terme. Le recyclage ne s'attaque pas à la racine du problème, qui est la surproduction d'emballages à usage unique. Il est aujourd'hui indispensable d'inverser la tendance et de financer en priorité le réemploi des emballages. La filière française du réemploi mobilise déjà plus de 700 emplois directs et non délocalisables en cas de généralisation. Ce chiffre pourrait atteindre jusqu'à 20 000 emplois supplémentaires dans la logistique, le lavage, la collecte ou la fabrication d'emballages réemployables. Ces activités sont ancrées localement, non délocalisables et reposent souvent sur des structures de l'économie sociale et solidaire, telles que les ESAT, les associations d'insertion, etc. et répondent à une double exigence environnementale et sociale. Du côté des consommateurs, avec un système local complet, les prix sont compétitifs. En Alsace, les bouteilles de bière ou d'eau en verre consignées sont vendues jusqu'à 20% moins chères que leurs équivalents à usage unique. Alors que le conflit au Moyen-Orient a causé une augmentation de plus de 40% du prix du plastique, le réemploi apparaît comme une solution bien plus sûre, résiliente et indépendante des dynamiques géopolitiques et des fluctuations internationales des matières premières, notamment grâce à l'utilisation du verre. Il bénéficie aujourd'hui d'une base industrielle existante, souple et en capacité de monter en puissance. En France, 58 centres de lavage sont déjà opérationnels, capables de traiter des contenants de différents matériaux dans une grande diversité de formats. Des bouteilles, des pots, des bocaux, des barquettes, des gobelets. Ces centres, conçus pour une grande modularité, ne sont exploités qu'à 20% de leur capacité. L'exemple de la liquidation judiciaire de l'entreprise de lavage de contenants, qui s'appelle donc Usage, je vous ai dit tout à l'heure UZAJE, en est le signal d'alarme. Lorsque Emmanuel Macron annonce le lancement d'une concertation sur la consigne à la Reuse Economy Expo, donc ça c'est du bourré d'anglais, donc ça fait moderne et c'est effectivement c'est très macronien comme événement. On attendrait que la consigne pour réemploi soit au cœur de cette concertation. Et pourtant, c'est l'atteinte des objectifs de recyclage et l'amende de plus de 1,5 milliard d'euros payés chaque année par la France qui reste au cœur de son discours. C'est bel et bien la consigne pour recyclage qu'il s'agit de développer, quitte à élaborer un système de consigne mixte au vu des initiatives de réemploi en cours de développement. Pour les associations environnementales, mettre sur le même plan les deux types de consignes est un très mauvais signal à destination du réemploi. L'ADEME avait estimé, en 2022, un surcoût d'environ 200 millions d'euros par an à partir de 2029 pour un système de consignes mixtes lié principalement à la coexistence de deux circuits logistiques distincts difficilement mutualisables. Ce coût semble élevé pour des déchets tels que les bouteilles plastiques qui sont censés être divisés par deux d'ici 2030 comme le prévoit la loi AGEC. Ces surcoûts font peser un risque supplémentaire sur les financements dédiés au développement du réemploi. En se concentrant sur les emballages les plus simples à traiter, notamment les bouteilles en plastique PET, la consigne pour recyclage ignore la majorité des déchets plastiques dont le taux de recyclage reste très faible. En outre, la consigne pour recyclage complexifie le geste de tri tout juste simplifié via des investissements massifs pour la généralisation des extensions de consignes de tri en 2023. A l'inverse, la consigne pour réemploi permet de prévenir les déchets à la source, de réduire la dépendance aux matières premières vierges et de structurer une filière locale créatrice d'emplois. Le développement de la consigne pour réemploi doit être la priorité. Pour Lisa Pastor, chargée de plaidoyer national pour Surfrider Foundation Europe, la réduction à la source doit être la priorité du gouvernement en appliquant et en renforçant la loi AGEC. Le réemploi parent pauvre de l'économie circulaire est la solution la plus efficace pour y parvenir. Non seulement les initiatives locales existent, mais c'est un levier de souveraineté, de développement économique, d'autant plus dans le contexte géopolitique actuel. Le reconnaître au salon Reuse est une première étape, permettre son passage à l'échelle doit être la prochaine. Pour Axel Gibert, chargé de plaidoyer pour France Nature Environnement, des investissements massifs vont être faits pour mieux collecter un déchet destiné à disparaître, alors que l'urgence est de réduire notre dépendance au plastique. Cette consigne pour recyclage répond aux exigences des plus gros producteurs de plastique au détriment de solutions concrètes pour faire évoluer nos modes de production. Voilà, eh bien j'en ai terminé pour cette revue de presse. On va s'accorder du coup une pause musicale beaucoup plus longue pour terminer cette émission. La prochaine émission aura lieu le premier lundi à 18h du mois de juillet. Je n'ai pas fait le calcul, mais le principe est simple. D'ici là, bien soutenez Radio Libertaire par la souscription. Tout est expliqué sur le site. Et je vous souhaite un bon mois de lutte et vous dis à très bientôt.
quand tu seras là-bas, si tu les croises, serre-les fort dans tes bras. Pour moi, les aventuriers de la vie, toutes les gueules cassées, les frappes du trépas, ceux et celles qui fricotent avec la mort, le diable, la cam et l'alcool, ceux et celles qui n'ont pas eu peur de ne pas vouloir tout perdre, les marginaux, les voyous, les fous, les apaches. Quand tu seras là-bas,
quand tu seras là-bas,
serre les forts dans tes bras,
serre les forts dans tes bras.
Quand tu seras là-bas,
quand tu seras là-bas,
j'espère
qu'on y baise, qu'on y boit. Quand tu seras là-bas, si tu les croises, mes héros, mes étoiles, dis-leur bien que j'arrive, serre les forts dans tes bras. Pour moi, j'en ai pas encore fini avec mes devoirs, quelques fautes à expier, strophes à coucher, quelques mots à hurler. Je prends tout mon temps avec la route, les l'envie et la nuit. Quand tu seras là-bas,
quand tu seras là-bas,
serre les forts dans tes bras,
serre les forts dans tes bras.
Quand tu seras là-bas,
quand tu seras là-bas,
j'espère qu'on y rigole,
qu'on y baisse, qu'on y boit.
Sera là-bas, serre la forme dans tes bras, celle que l'on aime autant que sa propre femme, celle pour laquelle on ne commet aucune infidélité. C'est pour elle et avec elle que je partirai.
Quand j'en aurai fini, je monterai moi-même mesurer l'étendue des dégâts.
Quand tu seras là-bas,
serre la forme dans tes bras,
serre la forme dans tes bras.
Quand tu seras là-bas,
quand tu seras là-bas,
j'espère qu'on y rigole, qu'on y baisse, qu'on y boit.
Quand tu seras là-bas,
retrouves-y la scène, ta cicorne et ta voix. La scène, ta cicorne et ta voix. La scène, ta cicorne et ta voix. La scène. La scène. Merci pour eux.
J'aimerais tant savoir comment tu te réveilles. J'aurais eu le plaisir de t'avoir vu dormir. La boucle de cheveux autour de ton oreille, l'instant, l'instant précieux où tes yeux vont s'ouvrir. On peut dormir ensemble à